18h, 19h, c'est vous qui le dites, présenté par la rédaction de Radio U. Vous êtes sur Radio U, il est 18h et vous écoutez C'est vous qui le dites, la quotidienne de Radio U. Ce soir, une nouvelle fois, direction Augan. Découvrez une nouvelle facette du champ commun dans lequel nous nous arrêtons cette semaine avec notre série L'alimentation autrement, une série coproduite par les radios de la Corlab. L'alimentation encore, mais cette fois un petit peu plus près de Brest, plus précisément à Ploudiry. On s'intéresse ce soir aux champignons Brice Bell portés par Jefferson et Xavier qui se lancent tous deux dans la production de champignons bio de manière autonome en visant donc l'autosuffisance totale. Pour animer cette émission avec moi aujourd'hui, Marion. Salut Marion.
Salut Morgane.
On commence cette émission avec du rock funkydélique. Et Marion, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, s'il te plaît?
Alors, c'est un jeune groupe breton qui s'appelle Among Blue et qu'on découvre tout juste. C'est les chansons qu'on va entendre ce soir, ce sont encore des maquettes. Et donc, pour en parler ce soir, on a Romain Lannée, qui est chanteur, compositeur et guitariste. On a Sophie Delval, qui est la chanteuse, David Kolb, qui est le bassiste, et Malo Doiré, qui est le batteur. Bonsoir à vous.
Salut.
Bonsoir.
Salut
à tous. Bonsoir.
Alors, donc, comme je l'ai dit, on est encore au début, aux prémices du groupe. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment il s'est créé, ce groupe-là ?
Bah, en gros, moi, je rentrais de Bordeaux, en fait. J'avais déjà un petit groupe à Bordeaux et je voulais recommencer une expérience, sachant que je connaissais déjà Malo, le batteur, à la base, et Sophie un petit peu. Et je me disais, on va faire un petit groupe, ce serait pas mal. Donc je les ai tous captés, final sauf j'ai vraiment encore plus rencontré par la suite. On a vu qu'elle chantait très très bien, qu'elle pouvait aussi faire du clavier. Et ensuite on a posté un message sur Facebook. On a un peu galéré, au final on est tombé sur le petit Dave, une petite crème de la basse, un monstre de la basse. Voilà, du coup on a une petite équipe bien solide, bien bien cool, et puis voilà, on espère vous faire kiffer avec ce qu'on va pouvoir produire, quoi.
Et donc vous avez partagé justement sur vos réseaux un extrait d'une répète, mais où vous n'étiez que deux à cause du couvre-feu. Uh-huh. Comment est-ce qu'on s'organise en tant que nouveau groupe avec un tout nouveau projet, en confinement, avec un couvre-feu et avec toutes les restrictions que ça impose?
Bah, on s'organise avec Dave, en fait. Non, parce que Dave, il a une maison, en fait. On a la chance d'avoir un bassiste qui a une petite maison, et du coup on va répéter chez lui. Et au tout début de l'année, quand on a posté cette vidéo là, on n'avait pas de maison, on avait que l'appart, et du coup c'est vrai que c'est un peu galère en appart de jouer. On est avec un caron et tout, sans batterie, bon, on peut pas vraiment bosser, quoi. Mais là maintenant on a la batterie, la basse, les amplis et tout,
royal,
comme tu dis, mon pote.
Et comment ça se passe entre vous pour le moment? Est-ce que ça va? Vous n'avez pas encore eu trop de disputes? Ça se passe bien?
Ah, il se passe bien,
c'est quotidien. Non, c'est menteur.
C'est un enfer.
Ouais. Non, en vrai,
le bagne.
Qui aime bien, châtie bien, on aime bien rigoler ensemble. Franchement, ça se passe plutôt bien pour l'instant.
Super, ouais. Bien même.
Ouais, très très cool.
Dans la présentation de votre groupe, vous écrivez « Il s'agit avant tout de kiffer le son et de composer à plusieurs ». Donc vous êtes quatre, mais est-ce que vous pouvez nous raconter justement comment ça se passe, le processus de créer à plusieurs ?
Alors, pour l'instant, on n'en est pas vraiment encore là. Même si ça commence à un peu... Il y a des petites nuances de trucs qui sortent en répé qui sont vraiment cool. Mais pour l'instant, en fait, vu qu'on voulait produire un truc rapidement... moi, j'avais déjà un petit lot de compos, enfin une dizaine de compos chez moi que j'avais fait dans ma piole. Et puis, du coup, je leur ai proposé déjà, voir si eux, ils étaient d'accord. Ça leur a plu visiblement, et du coup, on commence par jouer ça. Donc, c'est plutôt pour créer un peu une cohésion dans le groupe, parce que le fait de jouer ensemble comme ça, longuement, vraiment, ça apprend à se connaître musicalement sur des morceaux, s'influencer mutuellement, entre guillemets, ben, c'est pour viser par la suite, en fait, une composition à plusieurs, ouais. Donc on n'y est pas encore tout de suite, vu que là on aimerait bien sortir un EP en septembre. Après, ce sera peut-être un peu plus tard, on sait pas vraiment quand il pourra sortir l'EP, vu que ça va être pas mal de travail. Mais l'objectif à long terme, ouais, on y pense déjà, là on va en parler, mais là l'objectif c'est vraiment de composer à plusieurs, ouais.
Et comment ça se passe justement les répétitions un petit peu, parce que donc tu disais que t'avais fait un appel justement. Est-ce qu'il y a eu des petites surprises, des petites découvertes, bonnes ou mauvaises ?
Bah, j'ai découvert, j'étais amoureux de Dave en fait.
On a une déclaration d'amour en direct sur le 101.fm.
Je te réponds oui.
David. Non, bah les. Après, peut-être vous voulez prendre la parole aussi, expliquer un peu.
Bah, en vrai, moi, je pense que ce qui a été sympa, c'est dans un premier temps de découvrir que Sof, qui à la base est une amie, avait du coup un énorme potentiel dans le chant. Dans un second temps, de découvrir que David, qu'on a découvert du coup par la suite, était monstrueux en basse et une superbe personne.
Et crème.
Une crème, une délicieuse crème. Et tout s'est emboîté un peu au fur et à mesure et ça coulait un peu de source. Enfin, moi, je trouve que tout a coulé de source et ça, c'est super agréable. On s'entend tous très bien. Et moi pour ma part je me régale quoi. Enfin c'est le j'ai l'impression que le meilleur est à venir et que déjà ce qu'on a derrière nous c'est super chouette et ça avance super vite et moi je
oh.
après, je
crois que je suis au mot d'art en fait aussi.
Concrètement comment on fait, on prend les maquettes de Robin, on les écoute et après on essaye de soit recopier ce qui est proposé ou alors de changer un petit peu Mais en tout cas, on part de la base des compositions de Robin.
Ouais, de toute façon, ouais, t'as toujours une part d'interprétation à chaque
et
fois.
Et après, t'as un peu d'impro qui naît et tu arrives à t'adapter comme ça.
Ouais, et puis c'est de la même manière que Malo l'a exprimé, ça paraît assez évident. Il y a pas de, tu parlais d'éventuellement les points positifs, négatifs, les accoups, si on s'était querellé ou pas. Non, c'est simple, c'est vraiment plutôt dans la bonne humeur, dans le partage, dans l'écoute, dans le respect. Mm-hmm. Et ça avance vite. Et vraiment de manière très agréable, en tous les cas, ce cheminement, il est vraiment super kiffant. Comme dit Malo, je pense que derrière, on va bien se marrer.
Tu m'étonnes, John.
Et est-ce que vous réussissez à vous y mettre 100% ou est-ce que y a quand même les difficultés financières et de la vie quotidienne, j'imagine, qui font que peut-être c'est encore un projet qui à 0.5%, on va dire?
De toute façon, nous, on se balade financièrement.
C'est pas un problème.
Non, en fait, tout le monde est vraiment à fond. Ça me fait vraiment plaisir. Moi, j'avais peur, en fait, en lançant ce projet-là, parce que moi, j'avais vraiment envie d'un projet sérieux qui aboutisse vraiment sur quelque chose de concret. Là, je suis très bonne surprise. Tout le monde est à fond. On projette tous ensemble le truc. On se met plutôt d'accord. Donc, ouais, on arrive à tourner, Là, du coup, on avait un enregistrement de clip à Rennes et de musique, un enregistrement de son en studio à Rennes. Du coup, là, ces derniers temps, on a moins le temps de bosser. Mais sinon, le rythme normal, ça peut aller jusqu'à 2 répés par semaine, quoi. Donc, quand même, on s'en tire pas mal.
Ouais, voire plus quand on a une échéance proche, on peut monter une répé tous les deux jours pendant 2 semaines, quoi.
Ouais. Ouais.
Ça, c'est pas mal aussi.
Ouais. Et puis, en parallèle aux répétitions, compte tenu du contexte qui est un peu compliqué, mine de rien, on a déjà cette chance-là de pouvoir répéter deux fois et on bosse tous de toute façon aussi entre les répés sur ce projet-là de manière individuelle, sur les ordi. Il y a beaucoup de MAO sur le projet donc on l'a jamais à faire quelque part. C'est un fil continu.
Après, question argent, toi Dave, t'as un taf?
Moi j'ai un taf, ouais.
Toi Rob, t'as un taf aussi? Mi-temps, toi Malo et enfin nous deux là on
pas
est
besoin.
Étudiants mais...
pas besoin de travailler.
Bah vu que Robin travaille c'est bon.
Mais du coup moi je vais me trouver un petit job l'année prochaine pour faire plus de musique, mais oui effectivement il faut un apport financier et c'est pas forcément
pas
évident.
Mal de matos, ouais, pas mal de matos.
Et donc voilà, vous le dites bien, vous travaillez bien entre vous, mais est-ce que vous travaillez avec d'autres personnes aussi, d'autres professionnels de la musique, musiciens, techniciens, tout ça, est-ce que vous avez des liens avec d'autres personnes à l'extérieur?
Oh. Alors là, on a fait une belle rencontre avec les gars de l'ESRA à Rennes, là. Donc ça peut nous ouvrir des portes, je pense que le courant est bien passé avec eux, donc peut-être qu'on sera réamené à travailler avec ces techniciens. Et sinon, pour l'instant, comme on se connaît que depuis 4-5 mois, on essaye de vraiment apprendre à se connaître dans un premier temps pour ensuite peut-être travailler avec d'autres gens plus tard.
À fond.
Et pour ma part, compte tenu que ça fait un certain nombre d'années que je joue de la basse sur Brest, entre autres, et ailleurs, je connais beaucoup de monde. C'est plus des personnes qui font appel à moi pour des enregistrements. J'ai enregistré sur le dernier album de Vincent Hillmans ou des gens comme ça. Et je fais des remplacements de bassistes aussi sur des concerts, quand il y en avait. Quand il y en avait, voilà. Et je, oui, en effet, je connais beaucoup de musiciens et d'intermittents musiciens sur le secteur qui peuvent faire ponctuellement appel à moi. Mais actuellement, autrement, la trame, en trame de projet réel, qui avec un cheminement projeté en cohésion commune, en cohésion pure, j'ai envie de dire, c'est le seul que, dans lequel je m'engage, parce qu'après, on se disperse trop, quoi.
Ouais, c'est
puis,
bien d'elle.
Et puis, t'avais aussi, je sais pas si t'en as parlé, mais il y a Nico aussi.
Oui, on a, Nicolas.
On a rencontré un type qui est très chaud en réalisation, tout simplement. Et du coup, on projette avec lui, on a un peu discuté avec lui. On va faire sans doute un clip avec lui. Donc, ce serait pour septembre. Lui, il est vraiment une pointure, quoi. Le type, il
pèse à mort. René Spatial, qu'il s'appelle.
Ouais, René Spatial, vous pouvez aller checker sur Internet. C'est quoi le nom de son court-métrage, déjà?
CJ la planète Terre.
CJ la planète Terre, ouais. Allez checker ça. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Du coup, on aura sans doute l'honneur de bosser avec ce gars-là. Et, ouais, ce serait bien de bosser. Moi, j'aimerais bien qu'on bosse avec pas mal de gens, en fait, qu'on réussisse à créer un peu, un petit ensemble de gens qui puissent travailler ensemble, sympathiser aussi.
Puis même Lélé qui peut nous produire aussi, ouais. Pas forcément dans l'immédiat maintenant, mais qui pourra bien nous aider et bien faire avancer le projet avec nous, quoi.
C'est beaucoup de contacts, quoi.
Et donc, les sons qu'on va écouter dans quelques instants, ce sont encore des maquettes et vous les mixez vous. Oh là, je vais y arriver, je recommence. Vous les mixez vous-même, vos sons?
C'est un grand mot. Bah parce qu'en fait mixer, je m'aperçois que c'est très difficile. Même les gars avec qui on a bossé à l'ESRA là, donc c'est quand même, c'est pas des professionnels, mais ils ont quand même un gros bagage. Même pour eux, c'est qui ont des cours quotidiennement sur ça, c'est très difficile. Du coup, c'est moi avec des vidéos YouTube, etc. C'est, je peux pas faire un travail de fou, mais bon, on essaie au max. J'essaie de faire de mon mieux. Je suis au balbutiement du truc, quoi. Là, disons, j'ai commencé vraiment. Enfin, ça fait longtemps que je bosse sur Ableton. En termes d'arrangement, etc., pour faire les maquettes, mais vraiment mixer. Je sais pas si les auditeurs voient à quoi ça fait référence précisément, mais c'est des processus vraiment très compliqués. C'est beaucoup d'oreilles, c'est une oreille qui s'aiguise sur le long terme, donc que je n'ai pas encore développé vraisemblablement, mais qu'on développe tous les jours, enfin qu'on essaie autant que faire se peut.
Et ben, on va écouter tout de suite une de vos démos, Hello, et puis on revient tout de suite après l'écoute.
Living the worst for the end. I used to keep dripping like a big whale under the sea. No home under the sea. Thinking by me it has to be done. Put in a bit of light. Make it appear it has to be done like this. So when you get it, so I did you know that I feel okay? So I'd rather take it down, whip it down the way. Now hello, come it down. Hello, come it down. Here I'm released, found my balance to kick asses. Now look, I'm still moving like a big whale under the sea. I'm off to see each real. What if that man's lying? Get him on the roof so he can prove it. Let him die. Thank you.
I keep moving, sound in my ears, louder please, let's bounce on the floor. What if that man's lying? Get him on the roof so he can prove it, let him die.
Toujours sur le 101.fm, vous écoutez C'est vous qui le dites, et on vient d'entendre Hello du groupe Among Blue qui est justement en studio avec nous. Alors cette chanson, en l'écoutant pour la première fois, moi il y a une des paroles qui m'a fait sourire, c'est Now look, I'm still moving like a big whale under the sea. Littéralement, regarde, je suis encore en mouvement comme une grosse baleine sous l'océan. Sophie, est-ce que tu peux nous expliquer?
Alors... Pour ces paroles-là, comment expliquer ? Bah, c'est très imagé, hein, et c'est un peu métaphorique, mais c'est comme si en fait on était un poisson dans l'eau. En fait, on était à l'aise là où on était. Et une baleine est à l'aise là où elle est, au fond de l'eau. Voilà.
Joli. Bien joué, Sam, bien joué.
Super.
Une autre question.
J'ai l'impression que c'était un petit peu difficile, mais je crois que tu t'en es bien sorti.
Yes.
C'est une chanson qui est en anglais. Est-ce que c'est... Donc, c'est pas la seule, d'ailleurs. Pourquoi ce choix-là, en anglais et pas en français ?
Bah, c'est en fait... C'est un choix plus juste phonique, en fait. C'est... Enfin, moi, je sais qu'en faisant du rock un peu comme ça, enfin, le rock à la base, c'est quand même une musique anglaise, enfin, anglo-américaine. Hein. Et je trouve que c'est très très difficile, en fait, de faire du bon rock en chantant en français, parce que le français, avec les R, les T, les, enfin, c'est une langue qui roule beaucoup moins que l'anglais, en fait. L'anglais, c'est. Tu vois, ça, c'est très fluide comme langue. Et du coup, ça permet de. J'aime bien le flow qu'il y a en anglais, en fait.
Le yaourt.
C'est vrai que ça permet. Ça, en plus,
ça
il a raison. Ça permet de faire du yaourt. Donc, non, c'est vraiment un choix. Et puis, il y a un dernier truc, c'est vrai que moi, j'ai quand même. C'est difficile d'écrire pour moi des textes. Et ce serait. Enfin, ce serait encore plus difficile si je devais les écrire en français et que les gens puissent comprendre ce que je dis, en fait. Ce serait encore pire, en fait.
Est-ce que c'est parce que tu as du mal à écrire des textes que justement l'instrumental il a beaucoup de place dans la maquette qu'on vient d'entendre ?
Pas vraiment. En fait, c'est parce que moi, en fait, quand je compose des trucs, j'ai la guitare, la basse. Enfin, des fois, ça dépend. Généralement, j'ai ma guitare, je joue un air à la guitare. Ça, c'est cool. Vas-y. Et puis, il y a un truc qui me vient, genre où je vais chanter du pur yaourt, en fait. Et du coup, c'est je peux toujours avoir j'ai des chansons, en fait, où il y a énormément de vocales dessus, où il y a plein de chants, mais les paroles sont pas forcément écrites. Et du coup, c'est lors de l'écriture des paroles, en fait, ce que je fais, c'est j'ai mon enregistreur là sur mon tel, mon meilleur pote, j'enregistre en fait ma guitare plus un chant yaourt, et en fait à partir de ça, de ce squelette là, j'écris des paroles qui correspondent le plus possible à ce que j'ai phoniquement enregistré en yaourt. En gros, c'est comme ça que je fonctionne moi personnellement.
Bon, après on essaye quand même de mettre un peu de sens dans les paroles. Hein,
ouais. Mais... on essaie.
Puis on a la chance d'avoir moi et Robin qui sommes en colocation. On est en colocation avec Monsieur Jules Padeloup, que je me permets de citer. Lui et du coup a fait beaucoup d'anglais et lorsque Robin a besoin de rectifier le tir par rapport à telle ou telle phase de la chanson, ben Jules est là. Ouais. Pour nous aider aussi, et il le fait brillamment.
Et on le remercie très chaleureusement. Bisous, Juju.
J'ai vu que début mars, vous aviez travaillé sur une prise de son avec des étudiants de l'ISB. Comment ça s'est passé?
Cool.
Non, en vrai, c'était bien. On avait trois enregistrements avec eux. Donc, je pense que eux, c'était un projet final qu'ils devaient rendre. Et ils avaient besoin de musiciens. Et du coup, on était dans les locaux là de la fac de sciences et on a eu trois groupes pour trois journées différentes. Et perso, moi, c'était ma première expérience d'enregistrement, donc ça s'est bien passé. Les gens étaient sympas et on a enregistré là-bas en live.
Et là où le Covid a pour nous, enfin, c'est quelque chose de terrible dans la France, mais je peux me le permettre, c'est que, non, mais en fait, on a eu plusieurs opportunités parce que du coup, les producteurs, les studios sont en recherche aussi de musiciens et du coup, ben ça nous permet aussi de ça nous permet nous en fait de nous développer parce que ben ils ont besoin de demande quoi. Et nous, bah, on est là, notamment, enfin, entre autres, quoi, pour proposer du travail, et ça nous booste, et on a des opportunités que je sais pas si on aurait pu avoir ces opportunités-là,
ouais,
sans ça, en fait.
Quoi. Après, je tiens quand même à dire que le problème, enfin, j'ai pas du tout craché sur l'ISB, hein, vraiment, c'était un super moment et tout. Mais bon, on attend encore nos maquettes, quoi. Après, je crois que c'est un truc assez récurrent, et je leur en veux pas du tout, mais c'est vrai que ça aurait été quand même cool de recevoir un peu le
retour du travail, ouais.
Ouais, c'est ça, parce que là, du coup, on a enregistré trois trucs.
C'est sympa que ça revienne, qu'on puisse,
ouais, au moins, tu vois, les pistes et tout. Enfin, bon, faut qu'on les capte.
Ouais, il faut qu'on les capte, en fait.
À voir avec eux directement. Et donc la prochaine étape, c'est la sortie d'un EP, pourquoi pas un clip. Vous avez construit votre groupe dans le Covid, malheureusement on est obligé d'en parler. C'est, tu disais justement que tu avais l'impression que ça avait aidé. Comment vous voyez la suite du groupe? Enfin, que ça avait apporté des choses. Comment vous voyez la suite du groupe, le futur, peut-être des concerts, peut-être comment vous voyez ça?
Ouais, bah c'est ça, en fait on bosse sur pas mal de trucs en même temps, et un peu la stratégie en fait ce serait vraiment de, bah, étant donné qu'on a enregistré déjà des trucs à Rennes là qui vont sortir, qui vont, je pense, enfin je suppose, on a déjà eu un aperçu du clip qui a l'air vraiment pas mal, qu'on a tourné là-bas. On n'a pas eu encore d'aperçu du mix qu'ils ont fait des sons qu'on a enregistrés là-bas, mais avec le matos et les prises étaient bonnes, donc je me fais pas trop de soucis à ce niveau-là. Le vrai truc, c'est en fait on va plutôt que de publier au compte-goutte des sons par-ci par-là, en fait on s'est dit qu'on allait tout sortir d'un coup, comme ça pour les gens qui notamment, enfin inchallah, si y a des festivals qui reprennent un jour ou des concerts, etc., je pense que c'est mieux pour les gens qui recrutent les groupes d'avoir de la matière plutôt que un petit son et puis t'as rien pour creuser derrière. Là on aurait tout d'un coup et ce serait plus intéressant, quoi.
Après, prochain objectif, ce serait la fête de la musique pour nous. Du coup, on serait sur à Liberté le lundi midi.
Petit set de 20 minutes.
Voilà, petit set de 20 minutes. Donc, si vous voulez venir nous voir en live,
allez.
Venez nombreux.
Venez nombreux.
Oui.
Et apportez des bonbons.
Moi, j'ai une dernière question. Forcément, en grande joueuse de confinement que je suis, j'ai eu envie de vous demander, est-ce que Among Us, Among Blue, est-ce qu'il y a un rapport?
Non.
Ah, je voulais qu'il y en ait un, mais non.
Non. C'est, on ne sait pas trop d'où c'est sorti, et puis on s'est dit, vas-y, il faut bien un nom, boum.
Allez, hop.
Allez, c'est dans la boîte.
Oh, c'est chouette quand même.
Ouais, non, j'aime bien, il est cool ce nom, il est assez agréable.
Puis c'est en adéquation un peu avec notre style musical, quoi. Among Blue, ça fait rond et
chaleureux.
C'est chaleureux, c'est crémeux.
Crémeux.
Et nous, on fait des musiques un peu. Tous ces adjectifs rentrent un peu dans notre musique, quoi. Musique crémeuse.
Quelle blague.
J'adore ce que tu racontes, Manon.
Et ben, on va finir sur ça, sur l'adjectif crémeux.
Ah, ça nous fait plaisir, ça. Ça, c'est bien vu, Manon. Quel serpent celui-là.
Robin, Sophie, David et Malo, merci d'être venus ce soir.
Merci à vous.
Merci, à vous. Merci à vous infiniment. Ouais. Très cool.
Et puis, donc on retrouve les cofondateurs de Bracebell et Morgan tout de suite après Limbo, donc Damon Blue.
En yaourt.
Ah, pas ça.
C'était Among Blue avec le titre Limbo sur Radio U. Est-ce que vous savez que c'est grâce aux champignons que les plantes, communiquent entre elles? C'est ce que j'ai appris sur la page de Bracebell sur Kengo, le site de financement breton. Derrière Bracebell, Jefferson et Xavier qui se lancent avec ce projet dans la production de champignons biologiques en visant une production en autosuffisance totale. On vous propose de creuser un peu le sujet avec nous ce soir dans la quotidienne puisqu'ils nous ont rejoints en studio. Bonjour à tous les deux.
Salut.
Salut.
On va évidemment s'intéresser à Bracebell, aux champignons, à vos méthodes de production. Mais avant ça, si ça vous va, je serais bien revenue sur vos parcours parce qu'a priori, vous n'étiez pas vraiment parti pour devenir champignoniste à la base. Est-ce que vous pouvez revenir justement pour nous sur vos parcours respectifs et sur votre rencontre surtout?
Bien sûr.
Ouais, bah bien sûr. Bah déjà de base, nous en fait, on s'est rencontrés en aéronautique. Xavier, lui, était mécanicien, moi j'étais électrotech, et on a travaillé en fait 3 ans ensemble sur la sécurité de la piste de l'Envéoc. et c'est lors en fait d'un accident pour lui en premier et pour moi en second, il racontera son accident lui-même, qui en fait fait que on a décidé tout de suite de changer de voie, et quitte à avoir des données en mécanique et en électronique et en électrotechnique, on s'est dit pourquoi pas créer autre chose et être le plus autonome possible dans le rêve qu'on souhaitait concevoir. Voilà.
Donc je sais pas si tu veux aussi t'exprimer sur votre rencontre à tous les deux, sur ce qui a déclenché le projet.
Ce qui a déclenché le projet, c'est vraiment comme Jefferson le disait tout à l'heure, c'est vraiment lié vraiment à l'accident de travail, hein. Pour être clair, j'ai été frappé par la foudre sur la presqu'île de l'Anvéoc. Et en fait, à cause de ça, j'ai eu beaucoup de complications de santé derrière. J'ai été réformé de l'armée pour une aptitude médicale. Donc derrière, il a bien fallu trouver quelque chose à faire d'autre. Et quitte à faire, sachant que Jefferson s'était cassé la jambe à peu près sur la même période, et puis qu'il était aussi en convalescence, du coup, on s'est retrouvés tous les deux. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour la suite ?
Ok. On va revenir un peu après sur vos compétences et vos parcours et la manière dont vous les avez réinvestis justement dans ce projet-là. Mais j'ai vu que... j'ai regardé la vidéo de présentation que vous proposez sur la page Kengo. Et vous dites notamment que c'est la découverte de l'économie bleue qui vous a amené à vous lancer dans ce projet. Donc est-ce que déjà c'est bien ça ? Et est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est l'économie bleue ?
Ouais, tout à fait. L'économie bleue, tout simplement, en fait, c'est comment produire un rendement écologique à partir d'un déchet. Ce qui devient essentiel et hyper important actuellement, surtout aujourd'hui quand on voit le nombre de déchets qu'on produit en fait chaque jour et chaque année. Nous on s'est donc sur le Blue Economy, donc le site internet qu'on peut trouver hyper facilement, il y a en fait 130 possibilités qui sont complètement infinies, où on peut récupérer du plastique, transformer du marc de café. Il y a vraiment une infinité de possibilités, et nous on s'est vraiment intéressé aux champignons quand on a vu marc de café champignons. Comment ça se fait, comment c'est possible, et il y a vraiment une passion qui est arrivée, tout simplement.
Donc Bresbel, c'est une production de plusieurs variétés de champignons qui poussent, vous venez de le dire, sur du marc de café. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement comment ça marche exactement, ce procédé ?
Alors, pour la pousse sur le marc de café, le marc va réellement utiliser que en engrais. C'est qu'on va le mettre en complément en fait avec de la paille, des grains, enfin certains types de grains aussi. Des copeaux de bois, de feuillus, donc certains types pour tous les champignons, en fait, ils ont chacun leur type de bois différent, enfin d'essence différent, et aussi des copeaux en plus de la sueur qu'on doit remettre aussi en plus dedans avant de pouvoir faire une inoculation.
Ok, donc vous avez l'air quand même bien expert du sujet. Quand vous avez décidé de prendre ce virage-là dans vos vies, comment vous avez justement réinvesti vos compétences en mécanique, en électrotechnique dans ce projet-là ?
C'est de pouvoir concevoir en fait toute l'installation qu'on a à l'heure actuelle de nous-mêmes, en demandant le moins d'aide en fait dans d'autres entreprises extérieures, en faisant au maximum en fait sur l'autosuffisance, hein. Et après justement en faisant des chantiers participatifs, en invitant des personnes qui veulent aussi découvrir ce qu'on fait, on les invite à venir chez nous et à faire du coup la conception et les fabrications avec nous.
J'imagine qu'au départ, donc vos compétences que vous aviez déjà, elles vous ont servi, mais peut-être que des compétences, si vous en manquez certaines, pour devenir champignoniste, comment vous avez fait pour vous former ? Comment vous êtes, où vous avez appris en fait à faire tout ça ?
Les champignons déjà de base, en fait, on s'est rendu compte que c'était la base du vivant. Alors c'est vrai que là, c'était une découverte assez copieuse, et au point où quand on s'est pris de passion pour le champignon, on s'est rendu compte surtout des contraintes qu'il fallait pour produire des champignons. Ensuite, on a fait 3 ans de pratique, donc on a fait notre petit laboratoire sous 30 degrés à Plouguerneau en plein cagnard, pour au final avoir quand même des bons résultats. Et on s'est quand on a cherché des formations, on s'est rendu compte qu'il y avait aucune formation, il y en avait aucune sauf une dans le Jura, donc ça tombait bien, Xavier est de Franche-Comté, donc on a pu y aller tranquillement. Mais on a fait quand même deux semaines de formation, mais c'est vraiment les 3 années de pratique derrière qui nous ont permis vraiment d'être sûr de nos capacités en termes de production.
Et surtout c'est que pour revenir sur ce que disait Jeff par rapport aux formations qu'on a faites aussi sur du coup les cours de mycologie sur la culture de champignons, c'est qu'en fait il y a que celle-là qui est en France, et même dans les écoles agricoles, moi je me suis inscrit en école agricole pour pouvoir passer un BTS agricole production horticole pour en apprendre un peu plus, et en fait eux m'ont dit directement ne reste pas, tu vas rien apprendre, tu vas perdre ton temps, parce que c'est ni végétal, c'est ni animal, c'est une autre espèce, une espèce fongique. Et c'est pas, ils ont encore beaucoup de mal à le répertorier, à réussir à le classer, et vraiment le détailler.
On reviendra sur l'espèce du champignon dans quelques instants. D'ailleurs, donc vous proposez trois variétés hein, de champignons bio, si j'ai bien compris, donc en frais et en séché. C'est quoi pour l'instant du coup les trois variétés que vous proposez ?
Là, on est sur du pleurote, shiitake et feuille du peuplier en bio.
Et le but, voilà. Ça va être d'en proposer d'autres, c'est ça, dans les années à venir, 2022 notamment.
Tout à fait.
Surtout déjà pour la fin 2021, on espère hein, pouvoir le faire et on va essayer de s'y tenir au maximum pour la culture de reishi, maitake et enoki. En priorité, et là on est aussi sur nos essais pour de la mori.
C'est une question un peu bête, mais j'ai l'impression dans les noms que vous utilisez qu'il y a pas mal de noms japonais.
Oui.
Il y a beaucoup de variétés de champignons qui viennent du Japon. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous tourner vers ce type de champignons-là ?
C'est surtout les propriétés médicinales en fait du champignon qu'il y a derrière, parce que ben, surtout, comme on le dit dans la vidéo Kengo, hein, mais la période qu'on traverse actuellement pour la crise du coronavirus, ben, il faut qu'on se recrée un système immunitaire. Outre le vaccin et ces choses-là, mais il faut quand même qu'on puisse aussi nous se protéger à notre petite échelle. Et un des meilleurs moyens, ben, c'est les champignons. Quand on va vraiment regarder ce qu'il y a dedans, comme on dit dans la vidéo, on peut tout faire avec.
J'ai une question peut-être un peu bête, hein. Je sais pas, vous me dites.
Il y a une question bête.
C'est bien, vous êtes sur la même. Je vois bien comment on consomme des champignons frais, ça va, j'ai déjà fait plusieurs fois. Mm-hmm. Mais les champignons séchés, comment, alors c'est quoi, faut les réhydrater pour les utiliser ou comment on peut en fait les consommer ces champignons séchés?
Pour les consommer, tout simplement, il y a plusieurs options. C'est soit en chips, sachant que nous, en fait, il y a deux systèmes pour permettre d'avoir des champignons séchés. Il y a la déshydratation et le séchage. Nous, on fait un séchage à 80 degrés, ce qui permet, en fait, tout simplement de consommer même le shiitake qui, normalement, est assez, provoque des réactions au niveau cutané, au niveau de la peau. Mais comme on chauffe à 80 degrés pendant 6 heures, là, en fait, il n'y a aucun effet secondaire possible en consommant ce champignon. Donc ensuite, les sécher soit en chips ou alors réhydrater. Donc selon le champignon, il va y avoir un temps de réhydratation différent et ce sera indiqué directement sur les sachets. Voilà. C'est ça.
Alors tu vois, comme là, du coup, on t'a apporté deux petits sachets de pleurote.
Les auditeurs peuvent pas voir, mais
malheureusement, mais les produits sont disponibles à certains points de vente que vous pouvez retrouver sur le site internet.
Vous voulez peut-être en donner quelques-uns des points de vente, ça peut être intéressant.
Point de vente, alors en priorité Ticop. Je suis le coopérateur de Ticop depuis le départ, donc c'est vraiment un lieu qui me tient à cœur. Donc Ticop, ensuite on trouvera Landerneau, Primeur de la Palue, Terre de Merveille et dans les Biocop bientôt.
Ça marche. Le but de Bryce Bell, on l'a dit un peu tout à l'heure, c'est de produire des champignons bio en essayant d'être le plus écologique possible, d'être totalement autosuffisant. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous comptez justement arriver à cette autosuffisance?
Alors pour arriver à cette autosuffisance, là à l'heure actuelle on est déjà autosuffisant en eau. Car on a déjà 4 cuves de récupération d'eau de pluie, 3500 litres, donc on a à peu près 14 000 litres d'eau en stock, hein, qu'on fait passer dans des systèmes de filtration, donc papier principalement, et du filtre charbon actif et UV, pour pouvoir retirer un maximum d'impuretés en fait qu'il y a dans l'air surtout. Et donc déjà, on a déjà ça. La campagne de dons va servir à nous financer nos panneaux solaires thermiques qui nous serviront à chauffer l'eau chaude. Donc on pourra retirer du coup nos chauffages électriques qu'on a dans nos serres et aussi nos systèmes de brumisation qui pour le moment balancent de l'eau froide. Bon, même si on a un surpresseur et un ballon d'eau chaude pour essayer de faire chauffer un minimum l'eau, c'est encore pas assez. C'est pas l'éthique qu'on essaie vraiment de viser.
Dans les projets, si je dis pas de bêtises, j'ai aussi vu un recycleur de plastique et une éolienne, c'est ça ?
Ouais, tout à fait.
Éolienne de Pigo. Ouais. Ça, je vous laissais déjà répondre.
Le recycleur de plastique, c'est via Precious Plastic, qui existe partout dans le monde.
Ah oui, c'est une initiative mondiale, open source.
Ouais, c'est ça exactement. C'est une asso en fait qui permet d'implanter pas mal de conteneurs ou d'endroits où les personnes peuvent eux-mêmes aller concevoir en fait leur recycleur de plastique. Le plastique, c'est le problème numéro un actuellement. Donc pour gérer ça, comment est-ce que en tant que citoyen lambda, nous on peut aussi apporter notre pierre à l'édifice? Et ça marche, au final, c'est hyper utile pour plein d'artistes, sachant que n'importe quel artiste, artisan, qui lui veut fabriquer ses abat-jours, veut fabriquer n'importe quel type de structure, juste 4 machines, je crois que ça coûte dans les 350-500 euros pour le faire, et il peut réutiliser le plastique que lui va consommer ou alors va récupérer. Donc ça, c'est vraiment une innovation absolument incroyable et qui se diffuse partout dans le monde, comme les champignons. Ça se diffuse partout dans le monde.
Et la plupart de ces matériels-là, en fait, si on a un minimum touche-à-tout, on peut les fabriquer soi-même. Donc on a peut, du coup, on doit quand même se faire aider pour acheter les pièces à tel endroit, bah, pour faire quelque chose de conforme et de correct. Mais on peut le monter soi-même. Mmh. Donc, c'est aussi un gros gain, bah, économiquement, hein, que les gens peuvent aussi gagner là-dessus.
Ouais. Cette autosuffisance dont vous parlez, c'est marrant parce que vous venez justement de faire la comparaison, elle est un peu à l'image de ce que vous cultivez, le champignon. Dans la vidéo, je l'ai rapidement mentionné il y a quelques minutes, vous mentionnez que c'est grâce aux champignons que les plantes peuvent communiquer entre elles. Tout à l'heure, Xavier, vous parliez du système immunitaire, le fait que les champignons peut être un, voilà, en les consommant, on peut renforcer ce système immunitaire. Mais j'imagine qu'il y a d'autres vertus. Est-ce que vous avez justement d'autres choses comme ça à raconter sur le champignon, des bienfaits du champignon?
Il y en a énormément, du coup. Pour les personnes qui nous écoutent et qui veulent aller un peu plus loin, on en explique énormément sur le site internet, sur la partie du coup fongique et vraiment pour la mésiculture. Mais sinon, par exemple, si on prend le champignon comme le maïtake, c'est un champignon qu'on appelle donc le champignon pour l'homme. C'est un champignon qui peut aider du coup pour tout ce qui est virilité, se remettre bien. C'est juste un exemple, hein, mais le shiitake va fonctionner très bien pour la protection du système immunitaire, le nettoyage des reins, la pleurote peut faire un drainage total sur le corps. Et après, plus on va vraiment se lancer dans des champignons qui sont de plus en plus rares, et plus ça peut aller loin. Par exemple, le cordyceps, c'est un champignon qui pousse principalement dans les montagnes du Tibet, à 3800 mètres d'altitude. C'est un champignon qu'on appelle le champignon de longévité de vie. Et celui-ci, en fait, répare les cellules cancéreuses, par exemple.
Ah voilà. Oui. Vous allez en vendre de celui-là ou
celui-ci, il faut qu'on va essayer de le faire, mais c'est très compliqué.
C'est compliqué à
3800 mètres d'altitude.
Ok, oui, il y a certaines conditions de pression atmosphérique, ce genre de choses.
C'est exactement ça.
Okay, la température, d'accord. La pression atmosphérique. Après, suivant aussi l'impact de l'homme, en fait, qu'il y a aussi dans son milieu actuel par rapport au carbone et toutes ces choses-là. Et puis après, c'est un champignon qui est malheureusement qui pousse sur des êtres vivants. En fait, il les colonise. Attaque le système nerveux, les fait monter en hauteur, les tue pour pouvoir ensuite pousser dessus. C'est pour ça que niveau.
Il y a un petit côté alien, c'est sympa.
Voilà, c'est exactement c'est ça.
La petite bête qui sort du ventre.
C'est ça. Okay.
Mais voilà. Donc ça, on verra si on peut trouver un moyen de le faire correctement sans faire de génocide sur des animaux. Mais sinon, c'est pas prévu. Si on est obligé de le faire si on est obligé de passer par là pour le faire, c'est pas prévu.
Ok. D'accord.
Après, maintenant, au niveau des champignons, ce qu'il faut bien vraiment comprendre, c'est que les champignons, il y a tellement de variétés que les champignons, c'est comme un être humain. On a la même forme, on a la même base, mais on fonctionne totalement différemment. C'est vraiment la même façon. Quand on voit au final dans les médecines traditionnelles chinoises ou japonaises où le champignon est vraiment roi au niveau de la santé et de tout ce qui est médicinal, nous ce qu'on espère, c'est non pas supplanter la médecine actuelle, traditionnelle, mais plutôt apporter un complément. Par exemple, le reishi, qui est un champignon qui vient de Chine originellement, lui permet est un excellent complément pour, par exemple, quelqu'un qui est en chimiothérapie, parce qu'il possède énormément de polysaccharides qui permettent justement de booster le système immunitaire, ce qui est extrêmement pratique pour quelqu'un qui n'en a plus. Donc, on essaye aussi de démocratiser un peu ces principes-là pour les apporter en complément plutôt que être en opposition avec une médecine traditionnelle qui est bien utile quand on se casse la jambe, par exemple. Ouais. Voilà.
Encore de champignons qui te reconstruisent les os directement.
Ah, dommage.
C'est pratique ça. Mais bon, on a quand même compris, c'est plutôt pas mal quand même de manger des champignons. Il y a plutôt pas mal de vertus.
Même sans, juste pour convaincre, pour finir, c'est même sans juste les consommer, mais aussi les travailler, faire ce qu'on peut faire avec. J'ai vu un article il y a pas longtemps. D'une jeune femme qui est du côté de Toulouse et qui a fait un cendrier à base de champignons qui digère les mégots de cigarettes. Par exemple.
C'est un truc de fou. Surtout qu'on sait quand même que les mégots, normalement, c'est justement quelque chose qui met énormément de temps à se désagréger.
Mais le champignon mange tout. Par exemple, la pleurote, donc sur un champignon commun, ça, on le met dans le sol, ça nettoie le sol. Ça, en fait, il va capter tous les mauvais éléments qu'il y a dans le sol, les ingérer. Il va les rediffuser dans l'air naturellement et proprement. Et en fait, la pleurote derrière est quand même consommable.
À vous écouter, on sent que vous êtes passionné, puis passionnant, vous avez plein de choses à raconter sur les champignons. Je crois que justement, cette dimension pédagogique, éducative, c'est quelque chose que vous aimeriez bien mettre en place dans le projet. Il y a déjà ça, finalement, sur le site, comme vous dites, il y a déjà plein d'infos. Mais est-ce que vous avez déjà des idées, des choses que vous aimeriez mettre en place, en fait, auprès du public,
pour justement faire passer tout ce savoir en fait.
Bah on est déjà là, on est déjà en passe de travailler avec le collège de 6 ans où justement les enfants pourraient venir en fait et les collégiens pourraient venir directement sur site. Le but est un peu de leur montrer l'autonomie énergétique d'une part. Je pense que c'est ce qui est le plus accessible et le plus intéressant pour la majorité de la population. C'est bah comment est-ce que avec les systèmes que nous on a adaptés, eux peuvent aussi l'adapter, conseiller leurs parents. Généralement les enfants sont de bons conseils. Et ensuite au niveau des champignons, leur montrer s'ils sont vraiment intéressés par ce type de production, leur montrer toutes les possibilités qui sont disponibles actuellement. Je pense encore à un champignon en particulier qui lui peut imiter les insecticides. Donc c'est-à-dire que si on l'entoure les parcelles de culture agricole, les insectes ne rentrent pas sur le terrain. Donc en fait, on découvre petit à petit un monde depuis 20-30 ans. On se demandait comment les arbres pouvaient communiquer, comment ça se faisait qu'on avait autant de biodiversité dans le sol et pourquoi aujourd'hui on a un problème. Actuellement, on est avec les agricultures intensives et on commence à trouver la réponse parce qu'il n'y a plus de micro-organismes avec l'agriculture intensive actuelle.
C'est fou, c'est incroyable. Mais, ouais. Mais est-ce que vous pensez que c'est un savoir qu'on n'a jamais eu ou est-ce que vous pensez que c'est un savoir qui s'est perdu aussi?
C'est un peu des deux. Je pense que c'est un savoir qu'on... potentiellement ils ont pu avoir avant parce qu'ils étaient beaucoup plus en symbiose avec du coup la terre et tout ce qui compose en fait le monde qu'on connaît à l'heure actuelle. Et après on a dû la population augmenter, on a dû produire beaucoup plus d'alimentation pour nourrir ces gens-là. Et en fait derrière on a délaissé justement du coup donc toute la symbiose et toute cette nature en fait qui est juste là sous nos pieds et partout. Quand on voit par exemple que le champignon le plus grand du monde recensé à l'heure actuelle, il fait 600 hectares. Voilà. C'est le champignon le plus grand à l'heure actuelle.
Il est où? Est-ce qu'on peut le voir?
Et alors, il est aux États-Unis.
À quoi il ressemble?
En fait, le champignon, quand il pousse, donc la partie qu'on voit, qu'on va cueillir, hein, en soi, c'est pas réellement le champignon, ça. C'est qu'une infime partie. En fait, c'est parce qu'il veut sauver. Il veut sauver de là où il est. C'est pour ça qu'il vient pousser et après il lâche ses spores et il se déplace à un autre endroit. Mais en fait, tout se passe sous terre. Donc, le réseau mycélien qu'il y a dans le sol. Et le plus grand qu'on a réussi à recenser maintenant, c'est 600 hectares.
Ce qu'il faut imaginer, c'est que, par exemple, si un arbre... se fait attaquer et qu'on est dans un réseau forestier, donc un réseau qui est intact au niveau de la micro, enfin, des micro-organismes à l'intérieur, si lui se fait attaquer, c'est, par exemple, pour ce champignon de 600 hectares, ça veut dire que, quasiment instantanément, à l'autre bout de la forêt, l'autre arbre est au courant qu'il y a un potentiel action d'attaque,
danger qui arrive,
de
quoi.
Danger, soit par un nuisible, soit par un insecte, et donc il va se prémunir de ce danger-là.
Ou par un autre champignon aussi, parce qu'ils s'attaquent entre eux.
Évidemment.
C'est hallucinant. Mais est-ce que les champignons peuvent être aussi en danger ou est-ce que c'est une possibilité, ou c'est quand même une espèce qui est...
C'est comme pour tout, il y en a qui sont comestibles crus ou qu'on va devoir plutôt cuisiner pour qu'ils soient un peu meilleurs au niveau goût, mais il y en a aussi qui sont extrêmement toxiques. Mais après, c'est comme pour tout.
Non, mais je voulais dire pour les champignons en eux-mêmes. Enfin, quand on entend parler souvent de massacres aussi de la biodiversité, d'espèces qui disparaissent, là, je pensais vraiment, est-ce que le champignon peut être victime justement aussi de ces disparitions?
Par exemple, en France, il y a beaucoup d'essences d'arbres en fait qu'on commence à perdre parce que les champignons sont allés les attaquer et en fait ils ont attaqué sur le bois vivant, l'ont détruit de l'intérieur en coupant les circuits d'eau, donc il n'y avait plus de circulation en fait d'éléments dans le tronc. Et c'est comme ça en fait qu'ils ont réussi à décimer des forêts complets.
Il y a un autre problème actuellement. Comme on va remettre une couche sur l'agriculture intensive.
Oui.
Le gros problème, c'est que à force de balancer des pesticides et à force de balancer des nitrates, du phosphate, à plus en savoir quoi en faire, les plantes du coup n'ont plus besoin, eux cultivent, n'ont plus besoin des champignons pour pouvoir pousser. Mais le problème inhérent qu'on a, c'est qu'on se rend compte que déjà les variétés s'appauvrissent, la microbiologie à l'intérieur des sols également, et ce qui aussi provoque des éboulements de terrain, les coulées de boue et tous les problèmes qu'on a actuellement au niveau du climat. Nous, on dit pas avoir la solution à apporter pour justement régénérer les sols. C'est un travail de fourmi, c'est-à-dire que nous, on va fournir les champignons, mais il faudra bien des producteurs, par exemple, de chanvre qui vont permettre de dépolluer les sols, etc., etc. On est un des mécanismes qui va peut-être permettre plus tard
une partie de la solution.
Exactement.
C'est ça, un engrenage, on est un des pignons.
C'est ça.
Et en parlant d'engrenage justement et de mise en réseau, de travail avec d'autres partenaires, avec Bracebell, vous êtes adhérent à l'ADES, l'Agence pour le développement de l'économie sociale et solidaire. Dans vos partenaires, vous comptez, Jefferson, vous en parliez tout à l'heure, puisque vous êtes contributeur, le supermarché coopératif Ticop. J'ai vu aussi le réseau des agriculteurs bio du Finistère. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous tourner vers ces partenaires? Est-ce que c'était évident pour vous dès le début de travailler en réseau comme ça?
Ouais, c'était évident de par l'action sociale en fait qu'on va pouvoir impliquer, c'est-à-dire avec qui on veut réellement travailler. Nous, de par notre conscience écologique, c'est sûr qu'on va s'entourer en fait de ces partenaires-là qui, on sait, vont être locaux, donc vont soutenir en fait ces projets-là. Maintenant, par exemple, comme Enercoop, le fournisseur d'électricité. On sait des partenaires avec qui justement un dialogue est réellement possible, avec qui en fait on a un suivi. Et justement des potentialités d'action. Et l'ADES est un des gros leviers, surtout en termes économiques local. Ouais, tout à fait.
Jefferson, Xavier, merci beaucoup. Je pense qu'on aura encore mille choses à dire sur les champignons. Donc j'invite vraiment les gens à vous rendre sur votre site internet. Ouais. Hein, j'imagine quand tapant Bracebell dans Google ou un autre moteur de recherche, évidemment, on vous trouve assez facilement. Ouais,
en tapant Bracebell, on est les premiers qui sortent.
Ouais. Donc Bracebell, c'est B-R-E-Z-H, comme Brace. E-I-H, pardon.
E-I-Z-H.
Z-B-R-E-I-Z-H, comme Brace, quoi. Si vous savez écrire Brace, c'est bon. Et Bell, B-E-2-L.
C'est ça,
comme la
cloche. Ça, c'est bon, ok. Et on peut vous retrouver, donc, votre projet sur le site Kengo, et vous soutenir. Donc, il y a plusieurs paliers. Et donc, vous avez déjà exposé à quoi va servir le financement participatif. Mm-hmm. Mais voilà, on trouve encore des informations aussi sur Kengo, sur votre projet. Merci encore à tous les deux.
Merci.
Et sinon, on peut laisser un petit dernier message?
Bien sûr.
Et sinon, du coup, j'aurais voulu aussi remercier toutes les personnes qui nous ont suivis jusqu'à maintenant, qui nous ont aidés à faire évoluer le projet. Et je remercie aussi particulièrement, ce qui me l'a demandé, mais on va le faire, mon ami Vintufier, dit Tuf, de nous avoir amené, du coup, sa famille pour lui présenter notre projet parce qu'il y croit à fond. Et c'est grâce à eux, en fait, qu'on a pu faire aussi nos premières réelles visites et réelles pédagogies, en fait, sur la culture du champignon grâce à ses neveux et sa nièce. Ce qui était parfait.
Bah super. Bah on espère en tout cas que vous aurez encore plein de contributeurs et de gens qui viendront soutenir le projet. Merci encore à tous les deux. C'est vous qui le dites. Continue sur le 101.1 FM. À tout de suite.
Stop, but I'm not. Have you?
Squirrel Flower avec le titre Earth a Fly sur le 101.1. Vous écoutez, c'est vous qui le dites, c'est l'heure de notre rendez-vous quotidien, notre série de reportages en coproduction avec la Core Lab. Cette semaine pour l'alimentation autrement direction Augan. Le Champ Commun est une SCIC, une société coopérative d'intérêt collectif. Ce commerce multi-activité et multi-service de proximité, installé à Augan dans le Morbihan depuis 2009, regroupe une épicerie, un bar, une auberge, une cantine, une microbrasserie, un relais postal et une partie essaimage, formation et accompagnement de porteurs de projets. C'est tout de suite.
L'alimentation autrement.
Moi c'est Alexandra, je suis épicière depuis octobre 2017 au Champ Commun. Moi déjà c'est mon travail, mais c'est aussi un projet de vie puisque c'est une coopérative.
L'alimentation autrement, une collection de reportages à la rencontre des acteurs et actrices de l'alimentation saine et durable en Bretagne.
Malgré les nombreux messages des pouvoirs publics incitant à manger mieux, les habitudes prises depuis les années 50 ont la vie dure. La perte de près de 100 millions d'hectares de forêt en 20 ans, l'utilisation à outrance de pesticides, le système alimentaire actuel qui produit un tiers des émissions de gaz à effet de serre, tout cela contribue non seulement à la dégradation de l'environnement, mais aussi à l'augmentation des inégalités sociales et des problèmes liés à l'alimentation. Heureusement, des milliers d'initiatives au niveau mondial se mettent en place pour proposer d'autres alternatives. Le Champ Commun, commerce coopératif de proximité, installé à Augan dans le Morbihan, fait partie de ces initiatives. On y retrouve une épicerie, un bar, une auberge, une cantine, une microbrasserie, une programmation culturelle et une envie de transmission, de formation et d'essaimage.
4 euros et 1 centime.
Alors de base, l'épicerie du Champ Commun a été faite pour que tout le monde puisse trouver son compte. Donc on a à la fois des produits de grandes marques nationales, du conventionnel, et on propose aussi du bio et du local, bio ou conventionnel. Et je pense que ça peut amener les consommateurs à consommer autrement, puisque à côté des propositions classiques qu'on peut trouver dans les supermarchés, on a aussi des alternatives locales, bio ou pas. Ça peut amener à certains à changer leur mode de consommation.
L'alimentation autrement.
Bonjour, Benoît Coléo. Donc là, on est à la ferme des Écotones. On est à Guerre. On élève une quarantaine de vaches laitières en agriculture biologique. Et on transforme à peu près la moitié du lait sur la ferme. On fait des produits laitiers frais, yaourt, riz au lait, fromage blanc, crème, beurre. Toute cette partie qu'on transforme, on la vend localement, 25 km à la ronde, en divers circuits de vente, sauf la grande distribution. Donc on fait des marchés, on livre beaucoup d'épiceries, on livre des restaurants, on livre des différentes cantines, de la crèche à la maison de retraite, en passant par les restaurations d'entreprises ou même les restaurants administratifs avec les militaires qui sont sur guerre. On essaie aussi de contribuer à former des personnes à ce qu'on fait. Et bien, le bio, c'était aussi pouvoir, d'une part, agir pour préserver la nature et mettre moins de pesticides. Et dans la nature, il y a aussi les humains. Donc aussi, donner des produits sains aux humains. D'essayer d'être en bonne santé en mangeant des bons produits avec modération aussi. Des fois, ils sont tellement bons qu'on ne peut pas se modérer sur la crème fraîche.
Un exemple qui est assez flagrant, on vend du riz au lait des Écotones, donc une ferme à Guerre. Et en parallèle, on vendait aussi du riz au lait conventionnel qu'on peut trouver en grande surface, qui ne se vendait absolument pas une fois qu'on a proposé le riz au lait des Écotones. Donc on a arrêté la marque nationale et on est passé sur uniquement les Écotones. Donc je pense que c'est un exemple qui est quand même assez flagrant. Ce que j'aime à penser, c'est que les gens, s'ils ont envie, ils ont la possibilité de le faire.
L'idée, quand je me suis installé, c'était d'œuvrer aussi à la transition alimentaire, c'est-à-dire de se remettre à transformer pour produire localement et nourrir les gens du coin avec les produits du coin. Et que ce soit sain en plus, donc c'est que ce soit bio, que ce soit vendu localement et puis que ce soit bon. Parce que le but, c'est aussi de se faire plaisir en mangeant. Et en même temps, il y a aussi le fait de trouver d'autres circuits de vente. En agriculture, c'est qu'il y a quand même beaucoup de soucis avec la grande distribution. Les négociations, on en entend toujours parler. Donc l'idée, c'était de voir comment aussi on pouvait essayer de se passer de la grande distribution. C'est pour ça aussi qu'on s'est tourné vers les épiceries. Et on avait la chance, donc en 2010, d'avoir pas mal d'initiatives qui se mettaient en place, et notamment le champ commun qui se mettait en place à Augan. On trouvait ça très intéressant de pouvoir avoir nos produits disponibles quasiment 7 jours sur 7, même le dimanche, qu'ils soient au plus proche des gens, que les gens n'aient pas besoin de faire des kilomètres et des kilomètres pour trouver les produits. On pense soit à l'accessibilité financière, mais il y a aussi l'accessibilité géographique. Et là, c'est pas anodin du tout. Le début du champ commun, donc j'ai pu rencontrer les fondateurs et participer aux premières réunions avant même la constitution. Donc c'était intéressant aussi de pouvoir comprendre en fait comment on pouvait aussi agir pour la transition alimentaire localement et participer à cette initiative. C'était aussi une suite logique puisque dans le champ commun, les producteurs peuvent aussi être associés. Donc de réfléchir aussi avec l'ensemble des associés à l'introduction des produits des producteurs locaux. Et puis on a aussi permis de créer des emplois qui permettent aux personnes de mieux s'épanouir que la grande distribution. On l'espère et je pense que c'est le cas.
Ce reportage a été réalisé par la Corlab, en partenariat avec la Maison de la Consommation et de l'Environnement et la Confédération Bretagne Environnement Nature. Avec le soutien de l'ADEME, la DRAF Bretagne et l'Agence Régionale de Santé.
Vous êtes toujours sur Radio U. Retrouvez demain dans C'est eux qui le disent un nouvel épisode de l'alimentation autrement. Pour conclure cette semaine consacrée au champ commun à Augan. C'est vous qui le dites, touche à sa fin. Nous remercions une nouvelle fois le groupe Among Us. Marion, où est-ce qu'on peut les retrouver déjà? Rappelle-nous.
Alors, on peut les retrouver sur Facebook et sur Instagram. Et sur, donc sur Facebook et sur Instagram, sous le nom de Among Blue-du-bas Band sur Instagram.
Nous remercions également Jefferson et Xavier d'être venus nous présenter leur projet, leur très beau projet Braise Bell, la production de champignons bio de manière autonome en visant l'autosuffisance totale. On rappelle que la campagne donc de financement participatif est toujours en cours sur le site Kengo. Vous pouvez trouver sur le site donc c'est Braise comme Braise B R E I Z H et Bell comme les cloches hein, je crois B E 2 L. C'est vous qui le dites, c'est fini pour aujourd'hui. Retrouvez cette émission en podcast évidemment sur le site de Radio U. Ce soir sur Radio U à 20h, retrouvez un nouvel épisode de Rock et Boomer. Le rock, c'était mieux avant avec Loïc. Et à 21h, retrouvez un nouvel épisode d'It's a Live. Ce soir, encore une fois, retour sur l'Atlantic Jazz Festival, dernière édition. On retourne au Vauban pour le live de Band of Dogs. D'ici 20h, c'est le retour de la playlist sur le 101.fm. Bonne soirée à tous.